Actes des Apôtres, chapitre 12. Ça fait plus qu'un an que nous sommes dans les Actes des Apôtres, pas tous les dimanches. On a même laissé tomber ça pendant 6 semaines à peu près. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène, normalement nous quittons nos séries de messages dans un livre en parcourant verset par verset la parole de Dieu. Mais ça fait longtemps que nous avons vu la progression historique de l'Église de Jésus-Christ à partir du Pentecôte. À partir du Pentecôte, depuis le premier chapitre, nous avons vu la naissance de l'Église, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, rien que parmi les Juifs. Les Juifs ont été évangélisés, des milliers ont cru en Jésus-Christ, étant toujours opposés par des non-chrétiens juifs. Mais l'Église, pendant au moins les premiers 7 ans, consistait presque exclusivement, enfin on peut dire exclusivement quand on ajoute des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs, mais qui se sont convertis à judaïsme, et puis après se sont convertis au christianisme, si vous voulez, comme l'eunuque éthiopien, par exemple, au chapitre 8, que nous avons vu. L'Église, donc, était une Église, l'Église chrétienne est une Église juive, presque à 100%, pendant 7 ans. Et à partir du 9, l'apôtre Paul est saisi d'une manière extraordinaire, converti, et puis chapitre qui suit la conversion de l'apôtre Paul, c'est cet extraordinaire événement où Dieu a eu plusieurs miracles pour convaincre raciste Pierre que Dieu n'est pas raciste. Il est mort pour tout le monde. Il avait préparé la nation d'Israël, non pas parce qu'ils étaient bien, non parce qu'ils étaient mieux que les autres, mais pour avoir un point où ils pourraient lancer l'évangile à tout le monde. C'est bien annoncé dans les prophètes dans l'Ancien Testament, à maintes reprises. Hélas, les Juifs ont quitté le chemin, ils se sont élevés dans leurs propres yeux comme quelque genre extra spécial de Dieu. Dieu existe pour nous, nous existons pour Dieu, et même certaines orthodoxes grecques disent que les païens, parce qu'il n'y avait que 2 races pour eux, les Juifs et les chiens, les Juifs et les païens, les Juifs et des autres ethniques. Mais il y a, les autres ethnies existent pour alimenter les fers de l'enfer, pour brûler Satan et ses anges. Donc tous vont à l'enfer, sauf les Juifs. Et certains disaient même qu'Abraham se mettait devant les portes de l'enfer au cas où que les anges faisaient une erreur, ils voulaient lancer un Juif dedans. Et il s'arrêterait, parce qu'Abraham voulait savoir qui sont un juif et pas juif. Alors, nous avons du mal à pouvoir mettre dans ce contexte racial. C'est très difficile pour nous de nous mettre comme ça et d'avoir des générations et des générations et des générations comme cela. Pierre, quand il a reçu cette vision, Actes chapitre 10, c'est le drap qui descend avec toutes sortes d'animaux qu'il refusait de manger. Il n'avait jamais touché de loin même un tel animal, et le Seigneur qui dit: Pierre, lève-toi, mange. Jamais dans la vie. Il est remonté, il est redescendu: Pierre, lève-toi, mange. Il est remonté, il est redescendu: Pierre, lève-toi, mange, une troisième fois. Et Pierre est en train de chercher à comprendre ce que ça voulait dire, parce qu'il a compris que c'est le Seigneur. Il savait que c'était Dieu. Et puis une deuxième vision, Pierre, il arrive des gens, ils sont maintenant devant ta porte. Sans hésiter, Allez avec eux, ils sont des gentils ou des païens. Allez chez eux à Joppe. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Pierre est allé sans hésitation, parce que le commandement était clair. Il entre dans la maison, ce qu'il n'avait jamais fait avant, de même pas entrer dans la maison d'un païen, et de manger avec eux, et le moment propice, il comprend, je aperçois que ce que je suis en train de voir maintenant, c'est une preuve que notre évangile n'est pas que pour nous, mais c'est pour tout le monde entier. Et toutes ces blocages, ces présuppositions par rapport aux non-juifs commencent à dégringoler autour de lui. Et Pierre, dans un deuxième sens, si vous voulez, était reconverti à une conception de la foi chrétienne qu'il n'avait jamais compris avant. Alors les autres, ça c'était au début du chapitre 11, les autres, début du chapitre 11 de Actes, n'ont pas été convaincus, ils avaient entendu des rumeurs. Est-ce que vous avez entendu que Pierre est entré dans la maison d'un non-juif? Et non seulement ça, il a mangé avec eux. Et non seulement ça, il a mangé de la viande interdite. Alors, Pierre, il est allé trop loin. Ça y est, c'est fini. Il va répondre, mais ça ne va pas suffire. Il peut dire n'importe quoi, ça ne va pas suffire. Et la plupart du chapitre 12, le chapitre 11, est une récapitulation précisément détail par détail par détail. 18 versets où Pierre répète ce que nous avons déjà lu, notamment en chapitre 10. Et c'est vraiment merveilleux quand on arrive à chapitre 18. Vous avez vos Bibles ouvertes à chapitre 11, verset 18 de chapitre 11. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. J'ai dit la semaine dernière, ça veut dire qu'ils ont décidé de ne plus contredire. C'est un mot plus fort que simplement ils se mettent à l'aise. Ils ont fait une décision déterminative de repenser la chose parce que Pierre avait dit « Que pouvait-il que je fasse ?» Verset 17. « Puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Je n'avais pas le choix. » Pas envie, mais pas le choix. Plus tard, il va avoir envie, mais en ce moment, il n'avait pas envie. Mais il obéissait, il allait jusqu'au bout. Et nous voyons l'explosion. À partir d'ici, l'Église va exploser. Des païens par des milliers vont recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et nous arrivons à la fin du chapitre, et nous n'avons pas lu verset 27 jusqu'à 30, mais je vais le lire sans beaucoup de commentaires. Mais en verset 27, en chapitre 11, en ce temps-là, non, il faut que je lise verset 26, parce que je vais commenter un tout petit peu. Verset 26, ayant trouvé Barnabas qui quittait pour trouver Paul, il l'a amené à Antioche. Antioche, à partir de maintenant, Antioche sera le centre de toute activité chrétienne. Jérusalem, fini. Jérusalem n'est plus le centre d'évangélisation de la foi chrétienne, c'est Antioche, 500 km au nord, tout dans les territoires des païens. C'est le grand centre d'évangélisation. Et tous les voyages de l'apôtre Paul vont commencer ici, vont revenir ici pour apporter ce que le Seigneur a fait. Il va partir trois fois en voyage. Et il y a des églises nombreuses qui vont être établies à travers toute l'Europe et l'Asie mineure. Et dans une seule génération, il pourrait être vraisemblablement dire le monde a été évangélisé. La foi de Jésus-Christ est répandu à travers le monde. Et verset 26, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et la dernière phrase de verset 26, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelé chrétien. Il n'y a que trois fois que le mot chrétien se trouve dans le Nouveau Testament. Ici le premier. Il y a beaucoup de spéculations. Qui c'est qui les a appelés ça? Je ne dirais pas que c'était les Juifs, parce que chrétien vient de Christos, qui veut dire Messie. Et les Juifs cherchaient leur Messie, ils cherchent toujours leur Messie, même jusqu'à maintenant en 2012. Ils cherchaient le Messie, ils n'allaient jamais utiliser, désacrer le mot Messie, Christos, chrétien, pour ces gens méprisés, détestés, qui s'appelaient des disciples. Je ne crois pas que c'est les chrétiens eux-mêmes qui s'appelaient chrétiens, parce qu'ils s'appelaient un frère ou une sœur, ou un croyant, ou un disciple. Mais je doute que c'est eux qui avaient décidé. Il faut qu'on ait un nom, hein. Il faut qu'un des... Non, il a été dit, c'est probablement les opposants. Et c'est peut-être ça, les opposants, parce que l'idée parle du petit chrétien, des petits Christs, si vous voulez. Franchement, je crois qu'une meilleure réponse de cela sera des Antiochiens, je ne sais pas comment dire ça, des Antiolais, des gens de l'Antioche, eux qui voyaient ces chrétiens, qui étaient obsédés par une personne qui s'appelle Jésus-Christ pour eux. Le mot Christ n'est pas un nom, c'est un titre, une fonction. Jésus, c'était son nom, et ça veut dire Jéhovah et salut. Cette personne qui est mort, mais apparemment est ressuscité parmi les morts, suivant ces gens ici, il ne parle que d'eux, il prêche d'eux, il chante d'eux, ils discutent sur eux, ils sont pris par cette personne. C'est des gens de l'Antioche sans doute qui ont appelé chrétien. La deuxième fois, c'est une utilisation de moquerie aussi. Vous êtes persécutés, torturés, disait l'apôtre Pierre dans son épître, pour être chrétien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut attendre. Ça serait comme cela. Et verset 27, en ce temps-là, les prophètes, des prophètes, et nous savons que le mot prophète n'est pas forcément celui qui prédit le futur, souvent c'était le cas, surtout dans l'Ancien Testament, mais celui qui proclame la parole de Dieu, c'est un prophète, un proclamateur de la parole de Dieu, que ce soit de prédire le futur ou pas, qui était le cas ici. Descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, qui s'appelle Agabus, se leva, annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait, en effet, sous Claude, César. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Je trouve ça très très beau. La Judée, les Juifs, rien que les Juifs. Mais maintenant, les Juifs chrétiens, rien que les... Il y a des Juifs chrétiens qui, maintenant, commencent à accepter, à distance un tout petit peu, les non-Juifs chrétiens. Mais voici Antioche, des non-Juifs, mais chrétiens, se donnent entièrement pour les frères en Jérusalem, qui vont souffrir avec cette famine qui arrive. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Verset 1er, chapitre 12. Vers le même heure, excusez-moi, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Qui est Hérode? C'était son grand-père qui avait tué les petits bébés en Bethléem, quand Jésus, à la naissance de Jésus, c'était son oncle qui avait tué Jean-Baptiste par enlèvement de sa tête, juste pour faire plaire à une danseuse. Et c'est maintenant Hérode, son neveu, qui va, juste pour plaire les juifs, pas parce qu'ils détestaient le christianisme, mais parce qu'ils protégeaient sa position. Il se levait les mains pour maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il y a deux Jacques, vous savez, il y a le frère de Jean, Jacques, les deux pécheurs, péchés. Il y a le frère de Jésus, qui on verra encore en chapitre 15 de Actes. Verset 3, on est en Actes chapitre 12. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Donc 4 escouades, 4 soldats, 4 fois 4, ça fait 16, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. J'avais souvent posé la question, mais pourquoi ces hommes, ces soldats, bien formés dans le militaire, pour garder un homme qui doit avoir maintenant un certain âge, qui ne fait rien de mal à qui que ce soit? Je me demande si ce n'était pas parce que, rappelez-vous en chapitre 5, c'est maintenant la troisième fois qu'il a été mis en prison. La première fois ils ont laissé partir, la deuxième fois ils ont cloué dedans, ils ont fermé dedans, et puis un ange de Dieu est venu pour ouvrir la porte, et puis il disait, allez-y au centre-ville de Jérusalem, continue à prêcher à haute voix. Et les gens étaient choqués, personne ne comprenait qu'est-ce qui s'était arrivé. Hérode savait cet incident, il allait être sûr que ça ne se répète pas, parce que personne ne savait comment ça se fait qu'ils sont... Peut-être quelqu'un a mis de l'argent en dessous de la table et ils ont laissé partir. Mais moi, Hérode, je ne suis pas superstitieux comme ça, je vais les garder. Je vais assurer des soldats, 2 soldats devant la porte, ce qu'il est noté. Et puis, Pierre était gardé dans la prison. J'ai noté ici cette chose. Il était lié, pas contre contre le mur, mais contre un autre soldat. Si jamais il bouge, l'autre il va, pas un seul soldat, 2 soldats, par une chaîne, pas par une chaîne, 2 chaînes. Et puis il y a une sentinelle devant la porte, 2 sentinelles devant la porte pour garder la prison, rien que pour ce prisonnier, Pierre. Et voici un ange de l'Éternel, du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappait aux côtes, en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. J'ai essayé de compter tous les petits détails. Rappelez-vous, nous avons un livre de 28 chapitres, à peu près 1028 versets, je crois, pour donner toute l'histoire de l'Église primitive, 30 ans, une génération, la première génération de l'Église primitive. Et notez, on va laisser tomber beaucoup de détails, n'est-ce pas, si vous n'avez que quelques pages à écrire. Notez les détails. J'ai vu 20aine de choses détaillées pour qu'ils sachent. Il arrive cet ange, et puis, suivi par une lumière qui brille, suivi par l'ange qui frappe Pierre, Pierre se réveille, l'ange parle, lève-toi. Les chaînes tombent, ça c'est numéro 6. L'ange parle encore, une deuxième fois, mets ta ceinture et tes sandales. Pierre obéit. L'ange parle une troisième fois, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sort, ça c'est la dixième chose. Pierre suit. Pierre ne sait pas ce qui est réel, mais il imagine qu'il rêve. Fin de verset 9. 13, il passe le premier garde, il passe le deuxième garde, ils arrivent devant une porte de fer qui mène à la ville, et la porte de fer fait comme au carrefour, ça s'ouvre tout seul. Ils sortent, ça c'est le 17e événement, ils avancent dans leur rue, et événement numéro 19, l'ange quitte Pierre, et numéro 20, Pierre revient à lui-même. Est-ce que vous trouvez ça un peu rigoleux? Je crois, entre autres, Dieu a ses raisons, mais Pierre ne pouvait pas dire: c'est moi qui, avec toutes mes astuces, qui a planifié ma réchappement. Et j'étais très silencieux, quand personne ne regardait, je forçais les chaînes par terre, je sortais doucement, je regardais devant et derrière, et moi, avec toute ma sagesse, j'ai pu vraiment vaincre ces gens stupides. Pierre, il n'était même pas venu à lui-même, jusqu'à ce que tout l'événement c'était historique, derrière lui. Et puis nous lisons dans le prochain verset, il mène, après verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que le lendemain, Pierre meure. Après avoir réfléchi, ils se dirigeaient vers la maison de Marie. Marie était mère de Jean, surnommé Marc, et nous allons apprendre plus de Jean, Marc, plus loin en Actes, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Pierre frappa la porte, verset 13, si vous voulez savoir le numéro dans l'enchaînement des événements, c'est numéro 24, quant à moi. La quatrième activité, il frappa la porte, une servante nommée Rhode approche pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut d'annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Verset 15. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Mais c'est pas lui, hein? C'est moi qui ai ajouté cette phrase. Mais c'est ce qu'il voulait dire. 16. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et enfin, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Un commentateur qui a dit: Pierre était derrière des portes impossibles à s'ouvrir. Il s'ouvrait tout seul. Il allait à une porte très facile, il aurait pu juste donner un coup de pied, peut-être, et puis ça aurait s'ouvrir, et il ne pouvait pas entrer. C'est l'énigme du mystère de la souveraineté de Dieu dans les affaires de ses enfants. Ne cherche pas à comprendre toutes les voies du Seigneur, mais sachez qu'il fait ce qui est bon, et il ne fait jamais erreur, et il est souverain de faire ce qu'il veut. Enfin, la porte s'ouvre, les gens sont très étonnés, et puis nous lisons Pierre, verset 17, ayant fait signe de se taire, leur raconte comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit: annoncez à Jacques. Jacques? Oui, il y avait deux Jacques, disciples, n'est-ce pas? Il y avait deux Jacques qui ont été disciples, Jacques, fils de Althée, et Jacques, le frère de Jésus, Jacques, le frère de Jean, Jacques, le frère de Jésus. Et puis ils sortent, ils s'en allaient dans un autre lieu, on ne sait pas où. Et chers amis, à partir de cet événement, on n'entend plus parler de Pierre, sauf à chapitre 15, il donne sa vote en faveur d'une décision du conseil, et maintenant ça sera plus tard Paul qui prenne le devant. Barnabas qui est allé, après la conversion de Paul, qui s'était allé cacher quelque part dans la région de Tarse, Barnabas est allé le chercher. C'était Barnabas qui avait confirmé que Saul était réel au début. Et Barnabas allait le chercher, il a fait redescendre pour faire présenter Paul maintenant aux gens de Jérusalem. Et puis nous continuons par noter, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Personne n'était exempt de la peine capitale si jamais un prisonnier s'échappe. C'était la loi de Rome. Si jamais un militaire fasse glisser un prisonnier entre ses mains, il est mort. Et regarde, Hérode, verset 19, s'étant mis à la recherche, il n'a rien trouvé. Interrogeant les gardes, sans doute il pensait que quelqu'un leur a glissé de l'argent pour faire partir ces gens, embarrassé, humilié par cette échappe, Hérode, en grande colère, ordre l'exécution de ces 16 personnes. Ensuite, ils descendent à la Judée, à Césarée, pour y séjourner. Il fait sa propre recherche, il ne trouve rien, il interroge les gardes, il ordonne son exécution, il descend pour s'échapper à Judée et lâcher les blessures de son humiliation. Et puis verset 20, Hérode avait ses dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et Sidoniens. Tyr et Sidon étaient deux villes dans le nord qui se gouvernaient indépendamment. Ils étaient permis par Rome d'avoir le propre gouvernement et d'être indépendants des autres. Par contre, ils dépendaient beaucoup sur la Judée pour la provision de nourriture. Et donc, c'est marqué en verset 20. Hérode était des dispositions hostiles à l'égard de eux. Il était fâché, une question politique peut-être, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Ils cherchent à réconcilier avec lui, utilisant Blast, son chambellan, pour solliciter la paix, la réconciliation. Pourquoi? Parce que leur pays est tiré de la subsistance de celui du roi. L'historien Joseph dit, il parle de cette famine que nous avons vue à la fin de chapitre 11. Ils étaient en pleine famine. Sidon et Tyr étaient en grande difficulté parce que Hérode avait coupé leur soutien. Et donc, par astuce, par l'argent, ils utilisent Blast, un intermédiaire, pour persuader à Hérode de venir, de donner un speech pour qu'il puisse retomber dans les bonnes cœurs de Hérode. Au jour fixé, verset 21, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu, un nom de... » et pas un homme. Celui qui parle n'est pas un homme. » Quelqu'un crie. Franchement, je crois que c'était bien planifié en avance. Hein? Il faut que tu cries. Parce qu'on connaît Hérode. Il cherche la gloire des êtres humains. Il cherche à être approuvé par des gens. Donc tu commences à crier, puis quelqu'un ici, ils vont crier. Puis quelqu'un, et on va tous crier. C'est la voix d'un Dieu qui parle, c'est pas un homme. Et Joseph, l'historien, parle de cet événement. Pas du tout chrétien, mais parlant de l'histoire des Juifs, il parle de cet événement et de Hérode qui était juif et qui avait favorisé les Juifs. Donc Joseph parle d'une manière favorable sur lui. Et il dit, il était, à un moment donné, il portait des vêtements d'argent très polis. Et à un moment donné, il entre, le soleil resplendit sur lui, il était tellement brillant que des gens étaient choqués, Et ils étaient même terrifiés, certaines, ou bien ils voulaient juste le faire flatter. Joseph n'a pas dit ça. Il a dit qu'ils étaient terrifiés. Ils commencent à crier. Il est Dieu. Il est un Dieu. Comment est-ce qu'il aurait dû réagir? Il aurait dû réagir de la même manière que Pierre, déjà deux fois. Lève-toi, je suis un homme simple comme toi. Il ne faut pas que tu te prosternes devant moi. Ou comme Paul va le faire avec Barnabas en chapitre 17, et plus loin. Il criait, tourné parmi le peuple qui cherchait à offrir des sacrifices parce que c'est Jupiter et Saturne qui sont descendus du ciel et ils ont fait ces miracles. Non, 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 on n'est que des hommes simples. Ils refusaient d'accepter la gloire. Hérode aurait dû faire la même chose tant que bon juif. Mais ce n'était pas son style. Il cherchait la gloire. Il cherchait à être adoré. Et nous lisons au même instant, verset 23, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il avait, il n'avait pas donné gloire à Dieu. Joseph l'historien dit qu'il est rentré, ils sont rentrés chez lui pendant 5 jours, ils vivaient dans une douleur atroce avant de expirer. Il dit tout simplement ici, il meurt, il est mangé par des vers. Intéressant de noter, quand cette histoire commençait, un ange frappe Pierre, c'est le même mot utilisé. Un ange frappait Pierre. Un ange frappé Hérode. Même mot. Frappé. L'un pour son salut, l'autre pour sa condamnation. C'est bien noté ça. Cependant, c'est beau, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait. Et Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, amenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Je voudrais que nous tirions quelques leçons de notre passage aujourd'hui. Franchement, j'ai cherché à approcher ça de beaucoup de différentes manières. Il y a plein de choses qu'on pourrait tirer de ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? 4 choses que vous pouvez noter, si vous voulez. Bien que Dieu est tout-puissant, il n'empêche pas des décès, la mort inaperçue ou prématurée de certains de ses meilleurs serviteurs. Je crois que j'avais changé le mot prématuré. J'aurais dû peut-être mettre ça entre guillemets. Parce que souvent, nous voyons des gens qui meurent, qui sont bien, qui sont serviables, qui sont utiles dans le service de Dieu, et pourtant, pour aucune raison compréhensible, ils meurent. Et c'est spécialement dur quand vous avez 2 personnes côte à côte, l'un qui est méchant et qui ne fait que des menaces et des choses terribles à côté de l'autre, et ils sont dans une collision de voiture, et c'est parfois la personne de bon qui meurt et la personne de pas bon qui vit encore. Et on dit, mais pourquoi Seigneur tu agis de cette sorte? C'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas logique. Dieu ne fait rien qui n'est pas logique, mais sa logique est tellement au-delà de notre logique. Notre capacité de raisonner ici marche très bien, mais ce qui est à l'extérieur de notre logique est toujours logique. Parce que Dieu est logique, il fait ce qu'il veut, quand et comme il veut, et il ne fait que du bien. Et nous savons, il y a certaines choses que nous devons connaître par rapport au caractère de notre Dieu qui sont inchangeables, immuables, c'est un mot qui devrait aller avec n'importe quel attribut qui est enseigné de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez mettre le mot immuablement saint, immuablement amour, immuablement pur. Tout ce qu'il est, il est immuablement comme il est. Il ne change pas. Si Dieu change, ça doit être ou pour le pire ou pour le mieux. Il ne sera pas pour le pire. Il ne peut pas être pour le mieux parce que ça veut dire qu'il n'était pas le mieux avant et maintenant il est le mieux. Il est inchangeablement bon, sage, pur, saint, omnipotent, omniprésent, omniscient. Inchangeablement ça. Et il ne fait pas d'erreur. C'est bien de noter quelque chose en dessous de ce point. Ce qui enseigne que c'est toujours la volonté de Dieu pour nous délivrer de toute maladie, de toute tragédie et de la mort sont des faux docteurs, il faut le dire. Il existe dans le christianisme. Il existe dans le mouvement évangélique, souvent aux États-Unis, plutôt dans les pays riches que dans les pays non riches, peut-être, ou les grandes méga-églises qui enseignent, alors si vous avez la foi, vous allez être guéri de toute maladie, si vous avez la foi, vous allez être riche, si vous n'êtes pas riche, c'est parce que votre foi est trop faible, si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Ça c'est entièrement contre l'enseignement de la parole de Dieu, et surtout par rapport à son Église. Son Église va souffrir probablement plus que les autres personnes. Personne n'est exempt de cancer, d'accident de voiture, de quoi que ce soit. Le chrétien n'est pas plus exempt que les non-chrétiens. Ah, il y a certaines choses pour lui qui dépassent toute compréhension, qui lui donnent la paix, c'est que Dieu ne fait pas l'erreur et que Dieu est en train de préparer son enfant pour l'avenir aussi. Et ceux qui disent que ici sur la terre, vous devez être riche, vous devez être en bonne santé, vous devez ne pas passer par des tragédies, sinon c'est parce que votre foi est faible ou que vous cachez un péché quelque part, ça c'est peut-être possible, mais ce n'est pas l'enseignement de Dieu, que Dieu va toujours enrichir matériellement des personnes qui le suivent avec foi. C'est souvent le contraire. Et pour son Église dans 2000 ans n'a jamais connu une période où il n'y avait pas de souffrance, de persécution, de l'opposition de l'extérieur. Deuxièmement, Dieu ne nous aime pas moins quand il permet la tragédie dans nos vies. Est-ce que Dieu aimait Pierre plus que Jacques? Non. Ou est-ce qu'il ne faisait pas attention et à un moment donné, Pierre, un ange dit, écoute, il y a Pierre qui est mort. Bon, il arrive, bon, on va essayer quand même de sauver Pierre. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien que Dieu n'avait jamais su. Dieu n'a rien appris, quoi que ce soit. Et comme celui qui a dit, est-ce qu'il vous est jamais arrivé à l'esprit, qu'il n'y a jamais arrivé à l'esprit rien à Dieu? Est-ce que ça vous est jamais arrivé à l'esprit de penser que il n'est jamais revenu à l'esprit de Jésus ou de Dieu de penser quoi que ce soit? Il savait depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future tout à savoir. Il n'apprend rien. Il n'est jamais surpris. Il est toujours bon et omnisagesse. Il est omnisage et il est omnibon. Oh, comme c'est merveilleux de savoir que c'est notre Dieu. Autant difficile que ce soit, troisième chose, nous avons besoin de voir la mort du point de vue éternel de Dieu et non de notre perspective. Jacques est mort, son frère Jean. Ça va faire 50 ans avant qu'il meure. Jacques lui a beaucoup manqué sans doute. Il a pleuré. Dieu a attristé Jean en prenant son frère Jacques. Mais Pierre est sauvé de cette manière spectaculaire. Non, Dieu, non, ça n'empêche pas que Dieu fasse mourir une personne sans fasse mourir une autre personne. Et une partie de notre pèlerinage de foi, c'est de dire, que Dieu soit glorifié. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu est bon. Deuxième chose à prendre, et c'est que puisque Dieu est tout puissant, il peut facilement délivrer ses serviteurs des situations humainement impossibles, si c'est sa volonté. Dieu est plus glorifié quand nous sommes les plus démunis et totalement dépendants sur lui. C'était le cas de Pierre, n'est-ce pas? Pierre n'avait aucune chose pour écrire dans ses mémoires. J'ai vraiment fait une sagesse contre Hérode. Non, Dieu nous met pour notre bien dans une position de incapacité. Il faut faire ce qu'on peut, mais en fin de compte, on ne peut pas traverser la mer Rouge à moins que ça divise par une puissance plus forte que moi, n'est-ce pas? Et l'Ancien Testament est rempli avec cette histoire progressive. Ne parle pas des histoires dans l'Ancien Testament. Parle de l'histoire progressive où cet événement arrive, parce que c'est le moment pour éclairer ce qui était derrière et pour préparer ce qui sera avant. Ça, c'est la totalité de la Bible. Une progression révélatrice de la volonté de Dieu par rapport à l'homme. Et Dieu sait ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas savoir. Et j'ai lu dans mon culte personnel ce matin, Deutéronome 29, les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. C'est à nous de rechercher ce qui est révélé. Ce n'est pas pour nous de chercher par différents moyens à connaître ce que Dieu n'a pas voulu révéler. Et plus qu'on a confiance en Dieu, plus qu'on se repose en lui. Dieu attend souvent jusqu'à la 11e heure pour nous délivrer de telle sorte que nous soyons motivés pour prier. C'est la dernière minute. Adieu, à moins que tu viennes à notre secours, c'est fini. Franchement, je ne suis pas étonné qu'ils n'ont pas entendu Rhoda quand Pierre a frappé à la porte. Et Rhoda dit, c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une réunion de prière pour Jacques. Oui, il n'est pas marqué. Mais je suis sûr, ils avaient une réunion de prière pour Jacques. Ils ont dit prier. Et il n'y avait que Jacques qui a été pris. Certains disent que Jacques et Pierre étaient tous les deux pris ensemble, mais il n'est pas marqué comme ça. Jacques a été pris, Jacques a été tué, et quand Hérode voyait, ça faisait plaisir aux Juifs. Il a décidé de, j'ai gagné des points, je vais gagner encore plus de points, je vais prendre Pierre. Il priait pour Jacques, hélas. Jacques n'est pas sauvé. Et maintenant, la même chose pour Pierre. Il prie avec ferveur, il prie avec instance, il prie avec courage, mais avec une foi tellement faible que quand Pierre frappe à la porte, il pense peut-être que c'est des soldats qui viennent après d'autres, ou que surtout c'est pas Pierre. Qui que ce soit, mais pas Pierre. Il refuse de croire. Ça se comprend humainement. Vous avez fait aussi, sans doute, la même chose. Dieu n'est pas limité par les prières de son peuple, heureusement. J'ai un livre qui s'appelle « Seigneur, pardonne mes prières ». Et je crois qu'on va faire ça toute notre vie. On continue à prendre la grâce de notre Seigneur et puis on regarde en arrière, « Ouf, j'ai prié comme ça, j'ai honte ». On apprend mieux prier quand on avance dans la foi chrétienne. Dieu n'est pas limité par nos prières, mais il utilise nos prières pour accomplir sa volonté. Mais si Dieu est souverain, pourquoi prier? Ça, c'est une question souvent posée. Et la réponse pour moi, c'est parce que Dieu a souverainement décrété que vos prières vont faire partie de la réponse. Vous avez compris ça? Pourquoi prier si Dieu est souverain? Il va faire ce qu'il va faire. Si je prie ou si je ne prie pas. Dieu a décidé que dans la résolution de ce problème, Il va le faire souverainement, mais inclus dans le récept souverainement, c'est vos prières qui fait partie de la réponse, sans lequel il n'y aura pas la réponse. Dieu a décrété que dans sa souveraineté, nos prières font partie de l'accomplissement de sa volonté. Troisième leçon, puisque Dieu est tout puissant, il peut facilement enlever les leaders les plus puissants et orgueilleux quand il veut. Et quand le temps arrive, rappelez-vous dans le jardin de Gethsémané, Jésus est là, Simon prend son épée, Pierre, il frappe l'oreille de un des soldats, Jésus dit arrête. Il a pris l'oreille, il a remis, il a tourné vers la foule et a dit « Votre heure est arrivée. » Le ténèbre, l'heure ténébreuse est arrivée. Satan va avoir son heure. Son heure qui commence ici et qui termine ici et qui est contrôlée entre les deux. Soigneusement contrôlée par Dieu qui est bon et que ne fait que utilise Satan lui-même pour accomplir sa propre volonté dans l'Église. Puisque Dieu est tout puissant, il peut facilement enlever les leaders quand le moment arrive. Pour chercher la gloire pour soi-même, c'est de déclarer la guerre contre Dieu. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mais il donne grâce aux humbles. Cherchez la gloire. Et qui ici n'a pas fait ça? Qui ici n'est pas tenté de faire ça? De traduire ma situation, de manipuler les faits d'une manière pour que ça me fait grandir dans les yeux des autres. Je veux être aimé, je veux être approuvé, je veux être vu comme mieux que d'autres. Je veux, dans ma chair, il n'existe rien de bien. Christ est venu pour nous donner son esprit humble et doux qui peuvent vaincre cet orgueil. Et quand on se met à côté de Dieu, il est toujours à côté de nous. Donc déclarer la guerre contre Dieu est le suicide éternel. Hérode, cette histoire montre ça merveilleusement. Et nous lisons, oh excusez-moi, je ne l'avais pas mis ça, mais c'est ce que je viens de dire. De chercher la gloire pour soi-même, c'est de déclarer la guerre contre Dieu. Et de déclarer la guerre contre Dieu, c'est suicide. Et l'Ancien Testament est rempli innombrablement avec des juifs et des païens, ceux qui cherchaient à se mettre leur imposer leur volonté sur la volonté de Dieu, et ça semblait marcher pendant un certain temps, mais sans une seule exception, ce qui met leur volonté au-dessus de la volonté de Dieu vont trouver la défaite et la destruction. Et dernièrement, puisque Dieu est tout puissant, son évangile ne peut être arrêté par aucune opposition. Et c'est bien de voir le passage. Je l'ai mis sur le tableau pour que vous ne manquiez pas. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Et cela a toujours été le cas. C'est la dernière fois que le gouvernement juif, en tant que gouvernement, s'est levé la main officiellement contre le christianisme. C'est cet événement ici. Et l'Église... L'Église ne gagne pas par l'épée. C'est une citation par Tertullien qui était dans le 3e siècle. défenseur de la foi chrétienne, décédé en 2025, qui a dit à ses ennemis juste avant de mourir: nous multiplions chaque fois que nous sommes fauchés par vous le sang des chrétiens et la semence de l'Église. C'est merveilleux que la foi chrétienne s'avance pas par verser du sang des autres, mais par verser le propre sang, pas les autres. L'amour de Christ donné à ses enfants gagne. Et quand l'Église, même sous couvert du mot chrétienté, fonce des croisades pour chercher à gagner les autres par l'épée, ce n'est pas la religion de Jésus-Christ. Dieu vindique de sa manière. L'homme ne lève jamais l'épée, mais par l'amour, il fonde la haine, il fonde les oppositions, où il les met en colère. Il est lapidé, il est décapité, il est tué par l'épée. Il n'y a rien de différent. Terminez par regarder un Hébreux chapitre 11. C'est ce merveilleux chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 30. Verset 30, à partir de 32. Que dirais-je encore? Hébreux 11, 32. Hebrews 11, 32. Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Bon, il est en train de nommer nom après nom après nom de gens qui ne vivaient que par la foi. Que dirais-je encore? Le temps me manque de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, verset 33, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, Daniel, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérissant leurs malades, vaillant à la guerre, mis en fuite les armées étrangères, des femmes qui recouvrent leur mort par la résurrection, et d'autres livrées au tourment, et n'acceptent pas la délivrance d'une meilleure résurrection, mais d'autres, 36, subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, 37, la lapidation, être scié en deux, torturé, mourir, tué par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, qui sait, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes et dans les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi pas 40? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il nous attend, parce que nous allons joindre ces mêmes personnes un jour. C'est merveilleux de savoir ce que le Seigneur a fait pour sauver Pierre, sachant que Pierre va éventuellement être crucifié à l'envers. La tradition nous dit cela, nous n'avons pas ça dans la parole de Dieu. Alors quelle est la conclusion de tout cela? Si Dieu Tout-Puissant nous délivre de la persécution, ou si nous mourons pour notre foi, nous devons nous engager totalement à la poursuite de son évangile. Nous n'avons pas le droit de choisir comment nous allons terminer notre vie. Il y a une famille pour qui je demande vos prières, je ne vais même pas nommer leur nom, mais je les connais très 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 bien. En Afghanistan, en ce moment, une famille américaine avec 3 petits-enfants, de 6 ans, 4 ans et 2 ans, avec les événements qui se font ce week-end. On a eu sur Facebook juste un petit message qui annonçait l'anniversaire et le temps qui passait joyeusement, rien que ça. Peut-être pour dire à ses amis et ses familles qu'il ne faut pas nous inquiéter de nous, nous sommes entre les mains de Dieu, qui ont déjà eu un de leurs collègues il y a 2 ans tué, quelqu'un de très, très proche. Je les ai vus il y a quelques mois à Paris. Une famille très simple, une famille qui aime le Seigneur, une famille joyeuse, une famille dans des situations très difficiles et maintenant très précaires. Dieu fait ce qu'il veut. L'amour de Dieu est tellement puissant dans la manifestation de son Fils sur la croix qui a payé la pénalité pour nos péchés. Et maintenant nous avons le grand privilège de faire partir de ses souffrances par chercher à être des martyrs, au contraire, d'aller et de présenter et de témoigner le miracle de la grâce que nous avons nous-mêmes connu dans le salut de nos péchés. Et ça, c'est merveilleux. Priez pour cette famille dans ces moments précaires. Je n'ai rien, aucune nouvelle du tout. Ils sont dans le capital, en plein centre du capital, donc priez pour eux et priez pour les uns les autres. Tous les jours, il y a des chrétiens qui meurent. En Iran, en ce moment, il y a un pasteur d'une église chrétienne qui est condamné à la mort purement parce qu'il refuse de se convertir, de renier sa foi en Christ. Quoi de neuf? Bonne question, quoi de neuf? La foi chrétienne a toujours avancé comme ça. L'église de Christ triomphe par l'humilité, par la foi, par l'amour, par la joie dans l'avenir. Jésus-Christ lui-même était soutenu dans sa foi parce qu'il gardait ses yeux fixés sur la joie qui était devant lui. Et le chrétien qui aime le Seigneur a la même perspective. Oh, que des gens puissent voir en nous la personne de Jésus-Christ, dans toute son humilité, sa joie, son amour. Prions.